9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé sur sur Beurre FM. Alors on reçoit tous les matins des gens passionnants et l'un d'entre eux, quand il est venu la première fois, a déclenché beaucoup de réactions. C'est le docteur Bruno Donatini. Bonjour doc.
Bonjour.
Je vous ai attendu, hein, je voulais que vous reveniez. Alors vous êtes gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue et immunologue.
Oui.
Comme ça suffisait pas, vous êtes diplômé d'ostéopathie.
Tout à fait.
Vous êtes très en pointe sur ce qu'on appelle la mycothérapie. Schkun, la mycothérapie.
C'est le traitement à partir de champignons. Donc les champignons ont depuis longtemps attiré l'attention, depuis des millénaires en médecine traditionnelle, japonaise, chinoise, un peu moins chez nous, mais se développent très largement, étayés par de très belles publications, des produits qui ont de multiples possibilités.
Voilà, donc 30 ans de recherche en mycothérapie et vos années de recherche vous ont permis de mettre au point une nouvelle stratégie thérapeutique dans la prise en charge de différentes pathologies et vous êtes le père du mycélium sur écorce, qu'on expliquera ce matin. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait.
Bien, alors on connaît la phytothérapie, mais on connaît peut-être un peu moins la mycothérapie. C'est de la même famille ou ça ne procède pas exactement de la même façon ?
C'est un règne classé végétal un peu à part. Les fibres des végétaux sont classiquement de la lignine, de l'écorce, des fibres de bois, des fibres plus ou moins dures dans les végétaux. Donc ce sont des produits relativement durs et qui n'ont rien à voir avec le monde animal. Le champignon a pour squelette de la chitine et du chitosan. Et c'est le même squelette que les crevettes. Donc vous imaginez un végétal avec un squelette de crevette. Et là, vous vous rapprochez du monde des champignons. Donc un monde totalement à part. Mmh. Donc premier point. Deuxième point, c'est un monde qui n'a pas besoin de lumière par opposition aux végétaux. Donc déjà encore un monde à part. Et qui est plutôt symbiotique. Donc il aide à la pousse d'autres végétaux. Il va entourer les racines, aider à capter les minéraux, l'eau et favoriser la croissance. Donc c'est
enfin, même si certains sont des parasites.
Certains sont des parasites, oui. Mais la plupart sont des symbiotes.
Oui, il y en a qui ne favorisent pas la croissance.
Tout à fait. Oui. Tout à fait. La plupart des champignons vont donc être souterrains et on va connaître surtout le fruit du champignon qui lui va sortir et que l'on va cueillir. Donc ce fruit du champignon a une durée extrêmement éphémère, alors que le blanc du champignon, le mycélium du champignon, les petits rameaux, les ifs comme on les appelle, sont souterrains, vont être interconnectés et durer beaucoup plus longtemps. L'un des organismes...
Ah, c'est pas ce qui est sorti en fait, c'est ce qui est dessous.
C'est ce qui est dessous. Ce qui est dessous, c'est le vrai champignon. Ce qui est dessus, c'est une fructification très éphémère. Et donc le mycélium, ce qui est intéressant, c'est ce mycélium souterrain qui aide toutes les plantes à vivre. Une énorme, c'est la seule vraie symbiose gagnant-gagnant de notre univers.
Ce qui veut dire que le principe actif du champignon, c'est le mycélium.
Essentiellement. Et si on veut pousser plus loin, pour l'expert, vous avez le mycélium dit secondaire, c'est-à-dire mature, qui est souterrain. Il est identique au mycélium du champignon, le champignon n'ayant juste en ajout qu'un peu de squelette. Donc vous avez le même mycélium souterrain qui se retrouve dans le chapeau associé à un squelette. Donc il a simplement une forme qui a été rajoutée. C'est le même produit. Donc le mycélium secondaire est plus dense, plus propre que le chapeau. Et il a l'avantage de ne pas être contaminé par des bactéries qui sont en train de le manger dès qu'il est sorti.
La mycothérapie, hein, ça apparaît dans les années 70-80 en tant que thérapie. C'est récent, en fait. La mycothérapie moderne, hein, puisque vous le disiez tout à l'heure, les Chinois, eux, consomment des champignons depuis des millénaires. Mais c'est quoi, 70-80, c'est ça à peu près ?
Tout à fait. Et on a une très belle publication qui a attiré mon attention en 1984 dans le Lancet, qui indique que on a une baisse de la mortalité dans les cancers du côlon qui sont traités par un champignon qui s'appelle le coriolus.
On va dire que je suis tatillon, mais dans votre livre, vous écrivez 1994 pour la publication du Lancet. C'est l'année où vous
C'est l'année où le déclic.
Voilà, où vous vous lancez dans les champignons.
Oui, parce que je me dis, mais pourquoi ce champignon, le Corylus, a ses propriétés? Et très vite, d'autres publications donc convergent, et je trouve même un produit qui est utilisé dans les laboratoires de recherche où on stimule les globules blancs, et ce produit, c'est un extrait du Corylus. Et je me rappelle d'anciennes formations en immunité à l'Institut Pasteur, où on utilisait des lectines, des bêta-glycanes, des extraits de champignons pour stimuler les globules blancs. Et je me dis, bon sang, c'est bien sûr, le champignon est déjà utilisé, même en recherche, comme référence de stimulation.
Et vous expliquez que certains champignons, c'est ce qu'on va voir ce matin, peuvent prévenir des cancers, des infections, des maladies cardiovasculaires, du cholestérol. Alors, vous avez consacré deux livres au sujet qui sont introuvables, je dois le dire. Merci de me les avoir prêtés. Ça vaut une blinde aujourd'hui, si vous les cherchez sur Amazon. Je vous demande de les présenter, Doc.
Donc, le premier, c'est finalement une vision assez simple, mais un petit résumé des champignons les plus intéressants. De façon succincte, je présente le champignon dans son aspect, les différentes publications et ce que l'on peut en faire en pratique. Donc, le champignon, il ne faut pas oublier que théoriquement, c'est un aliment. Et il a été, pour la plupart, utilisé comme tel depuis des milliers d'années. Donc, même si ce sont des champignons au nom exotique, le Corylus s'appelle le Karawatake, le Ganoderme s'appelle le Reishi, le Maitake c'est le Grifola, ce sont des champignons...
Ils commencent à être populaires, ceux-là, hein, on va dire,
qui,
aujourd'hui.
Voilà, hein, ils commencent à être populaires.
Oui, ils commencent à être connus, bien connus. Oui.
Eh bien, ceux-là, on les trouve chez nous. Ce sont des champignons qui poussent chez nous et que l'on peut utiliser comme des aliments.
Et puis un deuxième livre, alors beaucoup plus technique, peut-être plus à l'usage des praticiens, de tous ceux qui s'intéressent aux médecines naturelles et qui veulent pratiquer. Hein. Il y a énormément d'informations dans celui-là.
Donc là, on reprend...
Les champignons comestibles, pardon, aliments d'avenir, chez Dauphin, pareil, introuvable. Hein.
D'accord.
Oui. Enfin, non, c'est pas qu'il est introuvable, c'est qu'il est cher, en fait, aujourd'hui.
D'accord. Donc, voilà. Il faut que je retravaille sur une nouvelle version.
Il faut faire une nouvelle version, bien sûr.
Et, en effet, ça, c'est un sujet qui bouge tellement qu'il y a de nouvelles publications. Le Corylus a fait l'objet, maintenant, de ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire de fusion de plusieurs articles qui sont maintenant comme des références, même en oncologie. On a d'autres champignons qui percent, comme le Phélinus. On a l'intérêt du Lethyporus qui détoxifie les dysbioses digestives. Donc on a tout un tas de, toute une palette, une immense recherche récente depuis 2018 qui mérite une mise à jour, en effet.
Voilà. Et puis vous publiez aujourd'hui La bouche miroir de votre santé chez Flammarion. Quand vous vous intéressez pour la première fois sur les champignons, vous n'y connaissiez quand même pas grand-chose. Vous êtes allé voir s'il y avait comme littérature et vous découvrez qu'il y a quand même énormément de littérature sur le sujet.
Il y a beaucoup de publications scientifiques anglophones et très peu de synthèses. Et puis, il faut faire un petit peu le ménage. Il faut regarder, quand on fait un travail de synthèse, on essaye de faire converger, de faire croiser les informations. Et puis, il faut qu'il y ait, je dirais, une logique derrière tout ça. Donc, la logique, c'est le sucre, le bêta-glycane, et la façon dont le champignon le présente, en quelque sorte. Il suffit pas qu'il y ait une substance active, il faut qu'elle puisse être absorbée, il faut qu'elle puisse créer des pontages, il faut pas qu'elle abîme non plus, qu'elle stimule trop. Donc, il faut faire un tri. Et ce tri nécessite pas mal de collecte. Je pense qu'en gros, on est à 400, 500 articles bien construits que l'on peut utiliser. Mais quand on est face à une telle information, ça met du temps. Quand le livre sort, il y a déjà 2 années de travail pour savoir
de compilation et de synthétisation des articles scientifiques qui existent sur le sujet. Et comme vous êtes un peu curieux, vous mettez à cultiver ces champignons.
Tout à fait.
Vous les faites venir d'où alors, ces champignons ?
Eh bien, c'est une longue histoire. C'est vrai que vous avez creusé un petit peu la mécanique et l'émergence.
Je vous ai dit que j'avais cherché, mais comment ça vous était venu ? Mais vous avez commencé par vouloir les cultiver vous-même.
Oui, tout à fait. Première grande question. Vous avez un livre et puis vous dites, voilà, les champignons, c'est merveilleux. Première remarque, vous avez plein de questions, c'est très gentil, on vous croit, mais on les trouve où ? Et avec quelle qualité ? Alors, donc j'ai cherché un producteur, si possible en Europe, qui travaille correctement. Au début, j'en ai pas trouvé du tout. Et puis, j'en ai trouvé un qui m'a dit, nous, on fait du blanc de champignon, mais on cultive pas. Alors, au départ, est-ce que le blanc de champignon a les mêmes propriétés que les chapeaux de champignon? C'est pas sûr. Donc, j'ai acheté du blanc de champignon et puis j'ai essayé de les cultiver. Je peux vous dire que le sous-sol a été encombré très longtemps. Parce que ça pousse pas aussi facilement qu'on le pense. Ouais. Un champignon, c'est très fragile. C'est très fragile et ça n'aime pas du tout les levures. Alors que les levures l'adorent et vont contaminer très vite. Et puis, vous avez une belle caisse toute moisie dans votre garage. Et puis, le substrat, il faut pas qu'il soit trop mouillé, il faut qu'il soit à bonne température. Et donc, après, j'ai fait une formation pour cultiver les champignons. J'ai une formation officielle de cultivateur.
Vous êtes allé chez Truffaut, vous avez fait quoi?
Je suis allé à l'étranger. Parmi les meilleurs, on a des structures belges et hollandaises, ouais. Parce qu'ils sont très équipés pour tout ce qui est autoclave, salle blanche, propreté. Et ils font pousser de temps en temps même certaines plantes, certaines algues dans ces milieux-là. Ils sont très forts dans tout ce qui est culture de végétaux. Donc ils sont très en avance sur nous, sur les végétaux, le compost et les champignons.
Et qu'est-ce qui est important pour vous dans l'apprentissage de ce processus finalement? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus?
Oh, c'est extraordinaire. Quand, si vous voulez vendre un produit, c'est une chose, mais savoir ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça marche, c'est autre chose. Donc le champignon en lui-même, c'est un fruit. Donc le fruit, il va être gorgé de squelettes, mais aussi de pesticides qu'il va puiser, il va avoir des métaux lourds, il va pouvoir moisir et contenir des bactéries indésirables, voire quelquefois dangereuses, et des mycotoxines. C'est ainsi que des champignons ont un mycélium très positif, l'armillaire miel, mais dès que ça vieillit, c'est extrêmement toxique. Donc, premièrement, ça oblige à faire la différence entre le mycélium et le chapeau. Deuxièmement, vous vous dites, je le fais pousser sur quoi? Parce que très vite, quand vous apprenez à faire une culture, c'est sur quel substrat? Or, le substrat doit être propre. Puisque si vous avez des mycotoxines dans le substrat, ou des métaux, ou des pesticides, le champignon va les concentrer. Par exemple, le champignon de Paris va concentrer les métaux, les mycotoxines. Si vous faites pousser sur de la paille qui est un peu moisie, vous aurez des mycotoxines qui vont détruire l'estomac et l'intestin.
Bien, alors on va voir ce matin les propriétés thérapeutiques de ces champignons que maintenant vous savez cultiver. Je rappelle que c'est le docteur Bruno Donatini qui est notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec le docteur Bruno Donatini, qui est gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue et immunologue. Je rappelle à chaque fois toutes vos compétences, ostéopathe, mais aussi vous êtes un expert de mycothérapie. Pour tous ceux qui nous disent la médecine d'Hund, blablabla, les médecines naturelles, il faut dire que vous aimez beaucoup les études scientifiques et beaucoup de ce que vous dites s'appuie sur des résultats scientifiques. Il faut expliquer ça.
Oui, c'est pas parce que on utilise la diététique, on donne des conseils sur le sport, le sommeil, qu'on n'est pas très important en termes de résultats et que ça ne se mesure pas. Donc, a priori, vous allez voir un médecin pour des résultats. Ces résultats doivent être mesurables. S'ils sont mesurables, eh bien, vous le mesurez, vous le publiez. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'aliments ou de conseils généraux, comme nettoyer sa bouche, par exemple, que ce n'est pas fondamental pour la santé. Nous avons vu que nettoyer sa bouche diminuait les Alzheimer, les cancers du côlon. Si vous mangez correctement des fibres, si vous, de temps en temps, effectuez un jeûne intermittent, vous aurez une meilleure flore et ça ira beaucoup mieux, vous aurez une bien meilleure santé. Et donc, le champignon a disparu de nos assiettes, c'est proprement et simplement scandaleux, parce que le champignon a d'énormes vertus thérapeutiques. Beaucoup plus qu'une carotte, j'ai rien contre la carotte ou la salade, mais le champignon devrait faire partie de nos assiettes. Et je ne vois pas pourquoi on ne lui redonnerait pas une place de choix. D'ailleurs, les publications générales chinoises indiquent que les mangeurs de champignons ont moins de cancer du sein et vivent plus longtemps.
Et vous expliquez que si on prend une des caractéristiques des champignons, si on parle de l'immunostimulation, il n'y a rien d'autre de comparable aux champignons.
C'est certain. Il n'y a aucun doute sur ça. Rien n'existe parmi le monde végétal, hormis certains champignons. Rien n'existe en termes d'équivalent. C'est-à-dire que l'échinacéa ne va pas stimuler les lymphocytes et n'a pas d'effet sur la survie avec chimiothérapie ou en cancérologie. Les publications sont indiscutables. Le Coriolus, le Felinus augmentent la survie chez les patients atteints de certains cancers, comme les adénocarcinomes. C'est indiscutable. Donc, à tel point que la tentation est grande pour les autorités de déclasser l'aliment et d'essayer d'en faire un médicament. On a du lobbying actuellement pour arriver à déclasser ces produits. Donc, il faut absolument tout faire pour les maintenir dans le giron global de l'alimentation.
Alors, en gros, quelles sont les propriétés thérapeutiques des champignons? Là, on est en train de parler d'ailleurs de quels champignons? Est-ce que c'est des champignons? Est-ce que c'est le cèpe? Est-ce que c'est le champignon de Paris ou ce sont d'autres champignons?
Alors, classiquement, on va avoir des champignons ligneux, donc qui vont pousser sur le bois et qui vont le décomposer. Ces champignons ont un versant mycélien qui vont être à la fois dans la terre et dans le bois qu'ils sont en train de consommer. Ils vont déliniser. Donc ces champignons, ce n'est pas le cèpe. Le cèpe va contenir du sélénium, de la lysine, c'est intéressant, ça stimule modérément l'immunité, mais ça n'est pas suffisant. Le champignon de Paris, c'est un légume qui est relativement neutre en termes de propriétés thérapeutiques et qui peut avoir des effets toxiques s'il est cultivé sur un mauvais substrat. En revanche, vous avez la pleurote qui est très connue et qui est très bénéfique et qui va toujours décontaminer son substrat. Même si vous avez des toxines, elles vont être découpées. Donc la pleurote c'est très positif. Ça va avoir un effet régulateur hormonal, donc tout ce qui est ménopause, endométriose, ça va aider l'os à se consolider. Et puis, on va avoir un effet de baisse du cholestérol. Ça contient d'ailleurs l'équivalent des médicaments anti-cholestérol qui sont actuellement sur le marché. L'industriel a copié la pleurote.
Il y a quelque chose dans la pleurote qui est dans les statines aujourd'hui?
Exactement.
C'était le point de départ dans vos recherches, hein, puisque vous avez constaté ça, et donc effectivement...
Absolument. Tout à fait. Donc c'est la même fonction qu'un médicament actuel.
Donc, attention, quand on dit même fonction, c'est-à-dire que...
On retrouve les mêmes enzymes que celles qui vont baisser le cholestérol à partir des statines.
C'est pas parce que c'est un champignon qu'il ne faut pas faire attention à la dose et à tout ça d'ailleurs. Parce que les gens se disent c'est du champignon.
Alors, en effet, c'est...
Parce que la question de la dose se pose toujours à un moment donné.
Toujours, ouais. Toujours. Et là, en effet, on est dans le thérapeutique. Donc le thérapeutique, il faut vraiment bien cibler les choses. Un aliment est thérapeutique. L'eau est thérapeutique. C'est un aliment... parce que vous pouvez en prendre une grosse dose sans être intoxiqué. Vous avez premièrement une utilisation sur du long terme par une large population avec des doses qui fluctuent de quelques grammes à plusieurs verres ou plusieurs centaines de grammes. Donc ce que l'on n'a pas avec un médicament ou un complément alimentaire qui est une concentration. Donc l'aliment est toujours moins toxique qu'un extrait. Et si vous concentrez encore l'extrait ou si vous le perfectionnez, vous avez un médicament. Donc un médicament a des effets secondaires importants. Un complément alimentaire peut avoir des effets secondaires si vous dépassez la dose recommandée. En revanche, un aliment, théoriquement, vous avez peu de problèmes. Il va permettre d'être consommé sans toxicité parce qu'il est associé à des fibres. Les fibres qui vont diminuer ou prolonger son absorption. Donc l'effet mycélien va être optimisé par un effet fibre, alors que l'effet mycélien et sa toxicité vont être accrus par un extrait. Vous faites un extrait de champignon, c'est un complément alimentaire, vous avez plus de risques d'hyperstimulation.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les propriétés thérapeutiques des champignons. Donc
on a vu la pleurote, premier exemple, donc là c'est cholestérol. Ou alors l'os ou l'estrogène. Deuxième grand champignon, le maïtake, le grifola, qui va être plutôt utilisé pour la minceur, la baisse Également un peu du cholestérol, de la glycémie, mais c'est surtout la baisse de la graisse dans le pancréas en bloquant les lipases pancréatiques. Il a une fonction de blocage. Et vous avez un troisième grand groupe qui sont les immunostimulants, on en a déjà parlé, le coriolus, le ganoderme, le félinus, qui eux, par le biais de sucre, vont hyperstimuler. Le coriolus va avoir un effet supplémentaire, il va bloquer un récepteur qui s'appelle le toll-like récepteur 2 et il va baisser l'inflammation. Et vous aurez aussi un effet sur les suppresseurs qui seront bloqués. Quand on bloque un suppresseur, on a un effet positif, bien entendu.
Donc ça, ce sont des stimulants de l'immunité.
Oui.
Naturel.
Troisième grand volet. Hein. Et un dernier volet, pour illustrer, c'est le hérysium. Le hérysium, c'est un champignon qui stimule un facteur qui s'appelle le NGF, Neuronal Growth Factor, et qui aide à la repousse des muqueuses et des petits nerfs. Donc quand vous voulez réparer quelque chose d'abîmé, on va recourir au hérysium. Une muqueuse digestive, un estomac qui ne se vide pas bien, un intestin grêle défaillant. Donc, le principe thérapeutique est toujours le même. Vous avez une défaillance majeure qui nuit à la survie immédiate. Par exemple, vous faites un Covid, vous faites un cancer, vous faites des infections à répétition, c'est l'immunité d'abord. On préserve le tissu, on préserve la personne. Deuxième volet, comme on l'a vu dans le livre La Bouche, il faut un bon microbiote. Diversifié, une bouche propre, des bonnes bactéries.
Un bon biofilm.
Un bon biofilm. Et donc là, on va enrichir les fibres par des fibres, on va enrichir pour faire une sorte de protection et on va essayer, avec des microdoses d'huile essentielle, de moduler les mauvaises bactéries. Et enfin, on va réparer, parce que détruire des virus et des mauvaises bactéries, ça ne répare pas. Donc on va essayer de réparer une fonction. Ça, c'est très important, cette notion de médecine dite complémentaire, qui n'est pas complémentaire, c'est qu'il y a une fonction, la fonction de salivation, mastication, la fonction de supporter le stress, de bien dormir, de chanter, de rire, de comprendre. Tout ça sont des fonctions, vider son estomac aussi. Le remplir aussi, c'est une fonction.
Donc, mais vous dites que c'est très important, vous, de bien vider son estomac.
Il faut bien vider son estomac.
Mais pourquoi c'est important de bien vider son estomac?
Si vous
c'est votre truc, à vous, ça.
Ah oui, oui. Si vous ne videz pas votre estomac, bon, déjà, il faut savoir que le nerf qui est en charge de ça, le nerf vague, a une fonction de vidange. Il vide le cœur, il vide le poumon, il vide les sécrétions pancréatiques, les voies biliaires, les selles biliaires. Il a une fonction de vidange. Normalement, tout doit être vidé rapidement, en 2 heures. C'est que la partie basse qui ne dépend pas du nerf vague, qui est une rétention. On retient la vessie, le bébé, les selles. Donc en bas, on retient, mais en haut, on vide. Mmh. On vide parce que si vous laissez du temps à la bactérie, elle va prendre le dessus sur vos compétences d'absorption. Donc elle va se servir d'abord, et petit à petit, elle va prendre le dessus même sur vos muqueuses, et elle va les manger. Donc plus c'est lent, plus vous avez un dépôt qui va grignoter votre muqueuse et l'atrophier. Donc l'objectif, c'est de récupérer une vitesse de vidange, des fibres, un bon microbiote, pas de virus qui est finalement la cause. Même le Covid ralentit la vidange gastrique. Donc vous avez une bonne vidange, pas de synthèse de déchets inflammatoires. Et puis, une fois que vous avez ça, votre muqueuse va pouvoir reprendre le dessus. Vous n'aurez plus de bactéries qui viennent coller et la détruire.
Mais comment on sait qu'on a une vidange satisfaisante?
Il y a plusieurs méthodes, mais ça n'a rien de spontané, sauf ceux qui ressentent bien leur transit digestif. Donc, je dirais, si vous avez une vidange défaillante, vous allez avoir moins d'appétit au petit déjeuner. Vous aurez plus de roux, plus de nausées. Vous serez plus vite rassasié. Vous aurez plus de ballonnements hauts. Avec une gêne respiratoire, plus de fatigue postprandiale. Donc là, déjà, ce sont des signes pas très bons.
Postprandial, c'est bon.
C'est juste après le repas.
Ah, c'est bon pour le Scrabble, mais.
Oui, mais sinon, c'est pas bon pour. En effet, un communicant, c'est pas un mot
c'est
très valable.
C'est bon pour les promenades postprandiales.
C'est ça.
Les petites promenades après le repas.
Après le repas. Donc, tout ça sont des petits signes. Après, on peut faire quelques examens. Dans les examens, eh bien, on va avoir la mesure des gaz expirés. Si, après 10 heures, vous avez encore des gaz qui sont à teneur élevée d'acide gras, c'est sûr que vous n'êtes pas à jeun. Alors que normalement, au bout de 6 à 8 heures, vous devez être à jeun et avoir des gaz très légers. Ce sont des gaz sous forme de cétones. Ça, c'est très bon signe. Plus vous avez des cétones précocement, plus vous videz et moins vous avez de déchets. Moins il y a de graisse dans le pancréas, moins il y a de graisse dans le foie. Mmh. Et moins vous avez de cholestérol, de diabète, etc. Donc là, on peut avoir un effet bénéfique de certains champignons. Par exemple, le maïtake, le coriolus, favorise la vidange et favorise la cétose postprandiale. Donc ça, c'est le test respiratoire. Après, bon, on peut faire une échographie.
Le maïtake, c'est le roi des champignons. De toute façon, c'est the king.
Oui, voilà. Il a été... C'est sa dénomination par tous les orientaux. Donc, ils vont préférer le maïtake. Je dois avouer que je préfère le coriolus, mais le maïtake a encore toute sa place dans le syndrome métabolique.
Le docteur Bruno Donatini est avec nous. Je rappelle, Doc, que vous publiez La bouche miroir de votre santé chez Flammarion. On a fait une émission sur le livre que vous pouvez réécouter en podcast et puis regarder la vidéo sur YouTube. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
Merci.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, première émission sur la mycothérapie qu'on explique ce matin avec le docteur Donatini qui est avec nous, Bruno Donatini. Vous êtes un des grands spécialistes en France de la mycothérapie. Vous faites des formations ?
Oui, c'est un sujet qui, je dirais, prend de l'ampleur, qui méritait d'être structuré, donc une formation s'imposait. Et essentiellement, la formation que je recommanderais, c'est la formation ECIM, E-C-I-M. Donc c'est une formation sur... 5 week-ends avec une formation théorique et pratique.
Il y a de la place pour 2023 ?
Il n'y a plus de place pour 2023.
C'est pour ça qu'on parle de la formation, il n'y a plus de place pour 2023. Moi, les gens m'appellent pour avoir le contact du docteur Donatini pour me dire est-ce que je peux avoir une place en formation.
Alors, c'est demain, 2023, pratiquement.
Oui, donc ça veut dire que c'est pour 2024, c'est ça ?
C'est pour 2024.
2024. Combien ? 8 week-ends ?
5 à 6 week-ends.
5 à 6 week-ends. D'accord. En présentiel ?
Il y a une partie de présentiel, il y a une partie qui peut être en visio.
C'est passionnant. Alors l'immunostimulation, déjà comment on peut la mesurer ? Comment est-ce qu'on peut savoir les effets du champignon sur notre système immunitaire ?
Eh bien, il ne faut pas oublier que la clinique, et c'est quelque chose d'important, donc tout d'abord, on ne va pas l'adresser à toutes les personnes, cette immunostimulation. Donc, on va focaliser sur des gens ayant des déficits. Le déficit, c'est au moins deux infections virales modérées à sévères dans l'année. Vous faites deux grippes ou vous faites une grippe, un Covid, vous avez une immunosuppression, surtout si cette grippe a duré plus de 3 à 4 jours. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'herpès labial ou génital est un signe d'immunosuppression.
Alors pourquoi il ne faut pas laisser passer un herpès ? Ça, c'est aussi un sujet sur lequel vous êtes très pointu.
C'est fondamental. Un herpès est un virus neurotrope. Il est associé au risque d'inflammation chronique du système nerveux central, officiellement associé au risque accru d'Alzheimer. Donc on ne laisse pas passer des herpès à répétition, premièrement. Deuxièmement, il est souvent associé à d'autres virus, comme de la famille de l'herpès, comme l'Epstein-Barr virus ou le cytomégalovirus, qui sont des virus immunosuppresseurs susceptibles de donner des cancers. Et souvent, l'immunosuppression est associée à un autre virus, qui est le papillomavirus, qui donne des cancers ORL et des cancers gynécologiques. Donc, tout ça sont des signes. Si vous êtes papillomavirus positif, au niveau d'un frottis, si vous avez une sérologie cytomégalovirus positif, vous avez une immunosuppression, surtout si vous avez un herpès. Donc tout ça sont des signes qui, dès l'interrogatoire, alertent le praticien.
Mais est-ce qu'on peut mesurer l'effet que la prise de champignons a sur le système ?
Deuxième volet, bien entendu, vous donnez un traitement immunostimulant chez ces patients et ces symptômes doivent diminuer. Plus d'herpès, moins de maladies parodontales, pas de zona, beaucoup moins d'infections à répétition. Deuxième volet, la biologie. Vous faites une prise de sang au départ, vous avez un nombre de lymphocytes et ce nombre doit augmenter d'au moins 10, 15, 20% après 3 mois de prise du champignon. Donc là, c'est factuel, biologique. Ensuite, vous pouvez mesurer, c'est plus long, souvent c'est un an et demi. La mycothérapie peut prendre du temps chez les immunosupprimés sévères. Et vous avez une baisse de la sérologie du cytomégalovirus. Donc petit à petit, vous éliminez ces virus, ils ne s'expriment plus, les anticorps baissent et vous êtes débarrasser de ces monstres qui favorisent l'immunosuppression.
La mycothérapie, c'est un système qui est préventif ou curatif ?
Vous avez les deux. Vous allez traiter un herpès qui s'exprime et vous allez augmenter d'un palier les défenses immunitaires. Vous aurez une meilleure réponse immunologique, plus d'anticorps après une infection, donc ça durera plus longtemps, vous serez protégé plus longtemps. Faut pas oublier, et je reviens sur ça, le coriolus avec son extrait qui s'appelle le PSK a été utilisé dans des vaccins pour augmenter l'activité vaccinale. Donc c'est un adjuvant quand on veut stimuler. C'est officiel. C'est un produit de laboratoire quand il est sous forme d'un extrait.
La pénicilline, par exemple, ça vient d'un champignon.
La pénicilline, ça vient d'un champignon. On a, en effet, des enzymes, des toxines qui... vous savez, c'est une guerre sans merci entre les différents types de levures, de biotes, de virus. Et ils jouent des coudes et puis n'hésitent pas à empoisonner le petit voisin. Donc une levure, une bactérie synthétise des bactériocines ou alors des mycotoxines qui vont tuer les petits copains de proximité pour prendre la place.
Quels sont les risques d'interaction avec d'autres traitements si on en prend et s'il y en a ?
Au Japon, la prise de Coriolus versicolor sous forme concentrée et injectable, c'est un médicament et c'est obligatoire dans tous les cancers digestifs. Donc ils ont démontré depuis longtemps qu'il y avait une synergie et aucune interaction avec ce champignon, de même pour le félinus. Donc les grands immunostimulants, il n'y a pas de risque. Le ganoderme, qui est le troisième stimulant, a été accepté par l'agence européenne, qui est très, très frileuse, comme aliment. Donc dénué de risque. Donc a priori, vous n'avez aucun risque si vous prenez ces champignons.
Si vous prenez d'autres traitements.
Oui.
On les prend sous quelle forme, ces champignons ?
Alors, on a de tout sur le marché. On peut trouver absolument de tout. Du champignon chapeau, du mycélium, du mycélium tout seul, du mycélium sur de l'écorce, des fibres. Et donc, vous allez avoir des formes, prenons le ganoderme, qui vont être, par exemple, du thé ou du café. Donc, vous avez des capsules de poudre de ganoderme. Vous pouvez avoir des pots à utiliser comme de l'épice. Ça a bon goût, le ganoderme. Vous pouvez avoir des gélules. Là, on est dans le complément alimentaire. Vous pouvez trouver le champignon entier. Alors, ça va se trouver pour le maïtake, pour le shiitake, que j'aime pas trop, je dirais un mot pourquoi. La pleurote, bien sûr.
Pourquoi vous l'aimez pas ?
Parce que le shiitake donne des effets indésirables parfois. Il va donner une éosinophilie et une allergie avec une éruption extrêmement prurigineuse. Donc, une poussée d'éosinophilie, ce sont des globules blancs qui défendent contre les parasites. Donc il est trop stimulant parce que les sucres sont trop gros. Donc il va y avoir une hyperstimulation digestive. Ce qui fait qu'il y a une mise en garde officielle par la DGCCRF, qui est l'organe de protection des populations du point de vue alimentaire. Donc il faut qu'il soit bien cuit. Et en fait, il faudrait qu'il soit
des fraudes. Hein,
voilà. Il faut qu'il soit très cuit. Et les populations, je dirais, européennes ne sont pas faites pour consommer beaucoup de shiitake.
Le fait justement de cuisiner ces champignons, de les cuire, est-ce que ça modifie leurs propriétés ?
Les sucres résistent à de hautes températures, en général plus de 200 degrés. Donc, vous ne dénaturerez pas les sucres immunostimulants. La pleurote, vous la ferez pas cuire de façon élevée. En général, c'est 60-70 degrés, donc les enzymes seront respectées. Et donc, vous n'avez pas de risque de dénaturer un champignon par la cuisson.
On dit la pleurote ou le pleurote ?
La pleurote.
D'accord. C'est une fille ?
Oui.
Où on trouve un bon mycothérapeute ?
Un bon mycothérapeute, je pense, vous avez l'ECIM pour les reciter, E-C-I-M. Donc il y a une sorte d'agenda des thérapeutes qui ont été formés. L'avantage de ces thérapeutes, c'est qu'ils auront, je dirais, une méthode d'utilisation. C'est pas le tout de pouvoir conseiller des bons champignons, des bons mycélia et donner de bonnes adresses. C'est aussi les utiliser à bon escient, bien entendu. Donc moi j'aime bien la méthode qui est nettoyer d'abord avant de stimuler. Donc on nettoie les virus, on nettoie la flore et on stimule qu'après parce que comme je l'ai dit dans le livre La Bouche, si vous stimulez le nerf vague vous, et qu'il y a des déchets à l'intérieur, vous amenez les déchets, dans 80% des cas, au cerveau. Donc, vous devez nettoyer d'abord. Et cette méthode, ben, c'est une méthode de thérapeute.
Je montre votre livre, parce que vous disiez le pleurote, quand vous avez écrit votre livre, c'était le pleurote. Je me suis dit, il a changé de sexe entre temps, et je voulais savoir pourquoi vous disiez le pleurote, d'ailleurs.
C'est impitoyable.
Hein. Non, mais c'est parce que quand j'ai lu votre livre...
La pleurote.
C'est la pleurote. Non, mais j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose avec la pleurote en 30 ans.
Pas du tout.
C'est vrai.
Pas du tout.
Donc, c'est la pleurote.
C'est la pleurote.
Faut pas me laisser de livre entre les mains, moi, vous savez.
Mais j'ai vu ça. Non. Je vous en donnerai plus. Hein.
Non, en plus, non, mais je vous les rends, c'est là. Il faut les garder parce que peut-être qu'ils peuvent servir à quelqu'un. Bon, alors il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui, alors moi ça m'intéresse, la mycothérapie, je voudrais trouver quelqu'un qui soigne comme ça. Donc effectivement, il faut être certain des thérapeutes vers qui on renvoie. Je rappelle que vous êtes médecin de formation. Donc c'est bien quand on a la double casquette.
Bien, ça donne une certaine rigueur et c'est normal que l'on ait confiance en son médecin. Le médecin va... la particularité, c'est le diagnostic. Un médecin fait un diagnostic, le vérifie, le confirme, il refait des examens, il demande un avis à un confrère et en définitive, il ne va pas laisser traîner longtemps un doute, il a un diagnostic. Pour pouvoir traiter correctement, il faut focaliser... toutes les possibilités.
Avant de prendre des champignons, faites le diagnostic.
Faut un diagnostic. Bien sûr, on ne prend pas un champignon pour traiter quelque chose d'inconnu. Il faut une stratégie.
Oui, mais les gens aujourd'hui sur Internet, vous savez,
Pas bien.
Ils font leur propre diagnostic.
C'est pas bien. Premièrement, vous avez fait votre diagnostic, faites-le vérifier par un médecin. Ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas tomber malade tout seul et vous ne pouvez pas guérir tout seul sans examen complémentaire, sans vérification et l'avis d'une personne tierce, formée, compétente, spécialisée.
Bon, vous avez du boulot. Hein. Vous avez des livres à réécrire sur les champignons et vous publiez La bouche miroir de votre santé chez Flammarion. Et oui, puisque ça part de la bouche.
Ça part de la
strate
bouche.
Numéro 1, la bouche. Non, on n'a plus le temps, Doc. Mais vous reviendrez.
Bien volontiers.
Bon, voilà, rendez-vous est pris. Vous réécouterez l'émission podcast sur beurrefm.net et vous verrez cette vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.